Donc, bon matin à tous. Très content d'être avec vous pour ouvrir la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir de le faire. Juste pour être certain, jusqu'à quelle heure que j'ai? Jusqu'à 11 heures? Oui, c'est ça? OK. Parfait. Donc, ce matin, j'avais à cœur de vous parler d'un sujet qui est très important dans la vie du croyant. En fait, qui est important qu'on sache, mais aussi qui est important pour nous personnellement, pour nous aider à passer à travers cette vie-ci qu'on a sur la terre. Puis ce matin, on va étudier un des versets que je crois qui est le plus cher pour le croyant dans la parole. Puis c'est un verset qui nous accompagne tous les jours de notre vie. C'est un simple verset qui nous aide à passer à travers les épreuves, à travers les tribulations. Finalement, de passer à travers cette vie sur terre. C'est un verset qui parfois peut être difficile à comprendre, parce que quand on le lit, dépendamment de la situation dans laquelle on vit, on peut ne pas y croire ou penser « ouais, ce verset-là dit ça », mais par expérience en ce moment, ce n'est pas ça que je vis. Donc, c'est un verset aussi qui peut être difficile à comprendre selon la situation dans laquelle on est. On va sauter tout de suite dans le verset. Je vais vous inviter à tourner dans Romains 8, 28, pour ceux qui ont leur Bible avec eux. Donc, le verset qu'on va étudier aujourd'hui, Romains 8, 28, va comme ci. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc, avant de continuer, on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce verset que tu nous laisses dans ta parole, qui, déjà à la première lecture, on voit qui est très profond, qui contient plein de vérités pour nous ce matin. Puis, on te prie qu'on puisse l'étudier avec ta sagesse, puis qu'on puisse en comprendre, Seigneur, ce que tu veux qu'on en comprenne, puis qu'il puisse nous suivre aussi dans notre quotidien. Puis c'est en ton nom qu'on te prie d'être avec nous ce matin. Amen. Donc, ce verset qu'on vient de lire, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Puis ici, je voulais vous proposer une traduction directe du grec qui va comme suit. Nous savons d'autre part que pour ceux qui aiment Dieu, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il a appelés. La traduction directe est probablement semblable, mais l'ordre diffère un peu, puis on va y revenir tout à l'heure. Donc, en tant que chrétien, on doit savoir que Dieu est au contrôle de toutes choses, qu'il est constamment au travail dans chaque circonstance de chaque situation de notre vie. Ce n'est pas seulement que Dieu nous a justifiés, qu'il nous a sauvés, qu'il nous a pardonnés, puis que maintenant, il nous laisse aller dans notre vie sur terre, puis on s'arrange un peu tout seul. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. On n'a pas à vivre à travers cette vie avec le hasard, en pensant qu'il faut s'arranger par nous-mêmes, puis que tout arrive selon des circonstances qui ne sont pas contrôlées par personne, donc, comme je l'ai dit, par hasard. Non, il faut sans cesse se rappeler que tout au long de notre vie chrétienne, Dieu travaille sans relâche, constamment, à aligner toutes choses pour notre bien. Puis ça va être ça le point focal de notre étude. Puis on peut définir cette doctrine-là comme étant la doctrine de la providence divine. C'est pour ça le titre du message, la providence. J'aimerais vous proposer une définition du mot providence. Qu'est-ce que ça veut dire, toujours dans le contexte de la parole? Mais la providence, c'est l'action continuelle de Dieu sur le monde qu'il a créé pour le bien de son peuple. Donc non seulement Dieu a créé le monde, mais Dieu continue à agir sur ce monde-là. Dans un sens bien réel, il est non seulement le créateur, mais il est le contrôleur de toutes choses. Et il utilise ce contrôle-là pour faire tout concorder pour notre bien. Puis le monde n'est pas géré de la façon qu'on pourrait appeler le fabricant de montres. Je vais vous donner une petite illustration. Tu sais, quelqu'un qui construit des montres, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il prend des pièces qu'il assemble ensemble, il monte sa montre. Ensuite, quand que toute sa montre est montée, que tous les engrenages sont ensemble, là, il démarre la montre. C'est là que les tics commencent à aller. Tic, tic, tic. Puis, une fois que ça, c'est parti, la personne qui fait les montres n'a plus besoin de toucher. Il la part, il la met sur une tablette, puis elle est prête à vendre, puis à fonctionner. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Dieu n'a pas créé le monde, a activé ses lois, parce qu'il y a des lois physiques qui existent et naturelles, qui fait que tout reste en place. Il n'a pas activé toutes ces lois-là, mis ça sur la tablette, puis retourner dans son ciel faire ses affaires. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Puis ce qu'on va découvrir ce matin, c'est que non seulement Dieu a tout créé à partir de rien, mais qu'il soutient le tout dans le creux de sa main. Il travaille pour que tout arrive pour notre bien, puis on a besoin de savoir cela. Puis cette étude, le verset qu'on a lu ce matin, on va le découper en 7 parties. On n'aura pas le temps de toutes les voir ce matin. Donc, on va en avoir 4 aujourd'hui, puis Dieu voulant, si un jour je suis réinvité, on verra le restant. Donc, ce matin, on va regarder 4 aspects du verset qu'on vient de lire de Romains 8, 28. Évidemment, le premier point qu'on devrait toujours regarder quand on étudie un texte, c'est le contexte. C'est très important de savoir s'il contient des mots de relation qui le lient au verset autour, parce que, je veux dire, la Bible est écrite, c'est dans un langage qui se suit dans des phrases, dans des paragraphes, puis un verset, c'est jamais tout seul dans son coin, ça vient avec quelque chose autour. Donc, c'est important de regarder qu'est-ce que l'auteur disait avant et après de dire cette phrase-là, ce verset-là. Puis quand on étudie le verset, on se rend compte qu'il y a justement un mot de relation, puis c'est un mot qu'on n'est pas habitué de voir, qui n'est pas utilisé très souvent justement pour faire des liens entre les versets, c'est « du reste ». Hein? On a lu dans le verset « nous savons du reste ». Mais du reste quoi? Qu'est-ce que ça fait référence, ce « du reste-là » ? On pourrait le traduire aussi par le simple mot « et ». On aurait pu mettre « et » au début du verset pour faire le lien avec le verset d'avant. Il est très important de remarquer cette relation parce que le verset devient donc indissociable de tout ce qui vient avant. C'est le complément, c'est l'explication de ce qui est exprimé plus tôt. Donc, ces mots du reste ramènent tous les versets 1 à 27 du chapitre 8 avec lui, dans le verset 28. C'est très important parce que ça nous fait remarquer, finalement, de quoi Paul parle dans le chapitre 8. On arrive au verset 28 où on voit ce merveilleux verset-là que tout concourt à notre bien, mais de quoi Paul parlait quand il a dit ça, quand il a écrit cela? Bien, peut-être, au contraire de ce qu'on croit, le chapitre parle de souffrance. Au verset 18, on n'est pas bien loin, c'est tout dans le même chapitre, les versets qu'on va lire. Donc, au verset 18, qu'est-ce qu'on lit? On lit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Les versets 22 et 23 parlent de soupirs, qui peuvent aussi être traduits par gémissements. Donc, les versets 22 et 23, « Or, nous savons jusqu'à ce jour que jusqu'à sa Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous qui aussi soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Au verset 25, on parle de persévérance. La persévérance, littéralement, c'est quoi? C'est d'être patient et d'endurer sous une intense pression. Donc, c'est quelque chose qui est difficile, la persévérance. Donc, au verset 25, on lit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Puis persévérance contient la notion de difficulté, d'être patient, d'endurer les difficultés. Le verset 26 ensuite parle de quoi? Parle de notre faiblesse. Donc on lit au verset 26 « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Donc si on prend le temps de regarder les versets qui viennent avant ce fameux verset 28, on rend compte qu'on ne parle pas de situations joyeuses, on ne parle pas de circonstances faciles, on parle de souffrance. Donc, après ces versets-là qui parlent de souffrance, vient le verset 28. Donc, ces mots « du reste » veulent dire que le verset 28 doit être appliqué, entre autres, dans le contexte de la souffrance. Évidemment, sans ces mots de relation, on pourrait quand même comprendre, mettons qu'on exclurait les autres versets, on regarderait juste le verset 28, on pourrait comprendre quand même que Dieu travaille à notre bien. Mais c'est tellement plus merveilleux de comprendre que Dieu le fait aussi, mais surtout dans nos moments difficiles, à travers nos souffrances et nos gémissements. Puis non seulement avant le verset 28, mais après le verset 28, on parle encore de souffrance. Si vous allez rapidement au verset 35 du même chapitre, on parle de quoi? On parle de tribulation, on parle d'angoisse, on parle de persécution, de faim, de nudité, de péril et d'épée. Le verset 36 parle de martyr, c'est-à-dire mourir pour le nom de Jésus, si c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est au milieu de ces adversités-là que ce verset-là est placé. C'est au milieu de ces adversités-là que les épreuves qui nous arrivent, bien, Dieu les transforme en notre bien. Puis, c'est quoi? Il ne faut jamais oublier les trois règles d'interprétation fondamentales de la parole. c'est quoi? C'est l'emplacement du verset dans le texte. Je vais y aller avec les deux prochains rapidement. Son emplacement dans le texte, puis son emplacement dans le texte. Les trois règles d'interprétation, qui finalement en est une, c'est celle-là. Il ne faut jamais oublier de regarder un verset dans la parole. Il est dit dans quel contexte. Puis, non seulement ça nous aide à ne pas avoir de fausses interprétations, mais ça nous fait découvrir encore plus de belles vérités, de belles richesses. Donc, ce verset-ci, c'est une promesse de Dieu. Dieu nous promet que toutes choses concordent à notre bien. Mais aussi, pourquoi on peut bénéficier de cette promesse? Pourquoi que tout concourt à notre bien? Mais c'est encore là, c'est les versets autour qui nous le disent. Les versets juste avant, 26 et 27, on va les lire. On y lit que « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc, en tant que croyant, on a le Saint-Esprit qui vit en nous. Puis le Saint-Esprit connaît le Père, parce que les deux sont Dieu. Il connaît sa volonté, il connaît son plan, mais il nous connaît aussi, il vit en nous. Il est donc la meilleure personne pour demander au Père ce qui est bien pour nous. C'est la meilleure personne pour prier. C'est pour ça que ces versets nous parlent de ça. Puis même si pour nous, ça ne semble pas être la chose à demander, on pourrait dire, c'est pas ça que je demanderais à Dieu, mais le Saint-Esprit, il sait ce qu'on a besoin, puis il va le demander à notre place. Puis, la réponse aux prières du Saint-Esprit qu'on vient de voir au verset 26 et 27, c'est le verset 28. Donc, au verset 26 et 27, on lit que le Saint-Esprit prie pour nous. Puis, c'est quoi le résultat de ces prières-là? Bien, c'est le verset 28, que toute chose concourt à notre bien. Donc, le Saint-Esprit prie à Dieu que toute chose concourt à notre bien. C'est extraordinaire. Le Saint-Esprit intercède pour nous, puis ce qui est aussi bien, extraordinaire encore là, c'est que le Saint-Esprit n'est pas sur un horaire 8 à 5. Le Saint-Esprit, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour nous. Il est tout le temps en train de prier sans cesse. Puis le Père répond comment? En faisant en sorte que toute chose concourt à notre bien. Donc ça, c'était le contexte. Dans quel contexte le verset 28 est donné? Le deuxième point qu'on va regarder, c'est la confiance. Si on regarde les deux premiers mots du verset, qu'est-ce qu'on y lit? On y lit « nous savons ». Hein, ça parle de confiance, on sait quelque chose. C'est quelque chose de solide. Vous et moi, nous devons savoir la vérité qui se trouve dans ce verset. C'est ça que Paul dit. Hein? Paul, il assume qu'on sait ça parce qu'on devrait le savoir. Paul assume ici que les croyants de Rome qui reçoivent cette lettre ont bien été enseignés et qu'ils savent déjà ces choses. C'est une doctrine de base de la foi chrétienne. Si quelqu'un croit, oui, en un Dieu qui a tout créé, mais qui ne croit pas que ce Dieu-là s'intéresse à nous au point de faire de la micro-gestion de notre vie, ben ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est ça. Le Dieu de la Bible, c'est qu'il veut s'occuper de nous dans chaque détail de notre vie. Nous devrions savoir cela avec conviction et avec certitude. Ça devrait être quelque chose de certain. Puis on ne lit pas ici que c'est quelque chose qu'on devrait ressentir. Hein? Paul, il dit pas « vous sentez, vous ressentez ». Non, il dit « vous savez ». Puis il y a une raison pour ça. Parce que la majorité du temps, c'est pas ça qu'on ressent. La majorité du temps, on ressent le contraire. Puis si on est honnête avec nous, on a chacun vécu des épreuves. Si on perd un membre de notre famille, on perd un enfant, on perd notre travail, on perd notre santé, on tombe malade. On s'entend que notre sentiment, c'est pas « yes, Dieu est en train de travailler pour mon bien, je suis tombé malade ». C'est pas ça qu'on ressent. On est humain, on n'est pas des robots. C'est ça notre sentiment. Mais la parole nous dit qu'on doit savoir que malgré ce qu'on ressent, Dieu travaille pour notre bien. C'est pour ça que le texte dit « vous savez, nous savons ». La parole nous enseigne des vérités qui sont vraies peu importe ce qu'on ressent. Ce n'est pas subjectif, c'est objectif. Dieu déclare quelque chose. C'est une vérité. Puis plus loin que ça, le texte ne dit pas non plus que nous voyons ou que nous comprenons que Dieu concourt, que toute chose concourt à notre bien. C'est la main invisible de Dieu qui travaille. Parfois, il y a des choses qui arrivent. Parfois, je dis bien souvent, la majorité du temps, on ne comprend pas tout ce qui arrive. Puis on ne peut pas le voir non plus. On le voit seulement par la foi parce qu'on croit en ce que Dieu dit ici, qui travaille pour nous. Puis de plus, on ne peut pas le voir parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Puis bien souvent, Dieu, dans son plan, utilise nos épreuves, les choses qu'on vit dans notre vie, qu'on aimerait ne pas vivre. Mais lui, il sait que par après, ça va porter des fruits et que ça va être bénéfique pour nous. Mais nous, on ne connaît pas ça, on ne connaît pas l'avenir. Dieu, il sait tout, il voit déjà dans le futur. Dieu connaît toutes choses, même l'avenir. Puis lorsqu'on voit quelqu'un qui passe à travers une épreuve, parfois on ne sait pas toujours quoi dire. C'est difficile d'appuyer quelqu'un et d'être avec quelqu'un qui vit quelque chose qu'on n'a pas vécu. On peut avoir de la difficulté à comprendre. Puis ce verset-là est très souvent cité à des personnes dans l'épreuve. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais des fois, ce n'est pas toujours la chose que ces personnes-là ont besoin d'entendre. Parfois, quand on ne sait pas quoi dire, on est peut-être même mieux de rien dire. Juste d'être avec la personne, l'appuyer dans ses épreuves. Mais ce qui est bien, c'est que quand on connaît déjà d'avance ce verset-là, quand les épreuves nous arrivent, ça peut nous revenir en mémoire. Ah, il y a ce verset-là dans Romains 8, 28 qui dit que ce que je vis en ce moment, c'est pour mon bien. Donc, quelle assurance, puis quelle paix qu'on peut avoir qu'on n'a pas dans ce monde-là. Hein? Dans le monde, quand quelque chose de mal nous arrive, bien, je veux dire, la vie sur terre, c'est la fin. On vit pour cette vie sur terre, donc si ça ne va pas bien, je veux dire, la vie n'a pas de sens. Mais Dieu nous dit qu'il nous accompagne à travers ces épreuves-là. On ne peut donc pas vivre notre vie chrétienne basée sur nos sentiments, sur notre compréhension, mais seulement sur la foi en ce que Dieu nous dit être vrai. Donc, avoir confiance en lui. Le troisième point qu'on va regarder, l'engagement. Remarquez dans le verset 28 à qui s'adresse cette promesse-là. À qui Dieu promet que tout va concourir au bien? Bien, c'est à ceux qui aiment Dieu. Dans notre version à nous, puis dans la grande majorité des versions françaises, ce détail-là vient un petit peu plus loin dans le verset. Mais dans le texte original grec, ça vient tout de suite après. Puis j'ai regardé toutes les versions françaises, puis il y a seulement la Bible de Jérusalem qui garde le bon ordre, là, comme dans le grec. Puis ça va comme suit, ça dit « Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment. » Donc, dans le grec, ça arrive tout de suite, ça, la notion de qui qu'on parle dans ce verset-là. Donc, « Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. » Donc, quand on veut mettre l'emphase sur quelque chose, en français ou peu importe la langue, on le met toujours en premier plan, pour que ce soit la première chose qui sort aux yeux. En le plaçant en avant en grec, l'emphase est mise sur une vérité qui peut sembler dure. Dieu ne fait pas concorder tout pour le bien de tout le monde. Il ne fait pas ça pour tout le monde, dans la rue, nos voisins. Il ne fait pas ça pour tout le monde, Dieu. Il fait ça pour ceux qui l'aiment. Ça peut paraître dur comme vérité, mais c'est ce que le texte dit. Puis c'est qui ça, ceux qui aiment Dieu? Bien, c'est simplement un synonyme pour parler de ceux qui sont nés de nouveau, des croyants, de ceux que Dieu a rachetés. Parce qu'avant qu'on se convertisse, on ignorait Dieu, on le rejetait et probablement même on le haïssait. L'amour envers Dieu, c'est le critère d'un croyant parce qu'avant, on ne l'aimait pas. Même Martin Luther disait détester Dieu alors qu'il était même dans le catholicisme parce qu'il trouvait que ses standards étaient trop élevés, c'était impossible à atteindre. Donc, il détestait Dieu pour ça. Puis, Romains déclare clairement que par nature, personne ne cherche Dieu, donc personne ne l'aime. Par notre nature pécheresse, l'homme en tant que tel ne cherche pas Dieu, veut rien savoir de Dieu. Donc, c'est vraiment pas par nous qu'on aime Dieu. Ce ne sont que ceux en qui Dieu a placé un cœur nouveau qui sont capables d'aimer Dieu et donc bénéficier de cette promesse. Il n'y a personne d'autre. Donc, les seules personnes qui peuvent bénéficier de cette promesse-là, c'est ceux à qui Dieu l'a donné de l'aimer. Puis, il est important ici de noter que, puisqu'on parle d'une foi réelle, une foi rédemptrice, la foi qui sauve, bien, cette foi-là, ce n'est pas juste le fait d'acquiescer à l'existence d'un Dieu. Avoir la foi dans la parole, ce n'est pas juste de croire qu'il y a un Dieu. Hein? Parce qu'on sait qu'il y a un texte qui dit que les démons croient en Dieu et ne sont pas plus sauvés pour ça. Ce n'est pas simplement le fait de croire à ça, c'est plus que ça. C'est aussi plus que d'être en accord avec la déclaration de foi de son Église. C'est plus que ça. C'est plus que d'avoir de nombreuses connaissances académiques sur la Bible. Il y a des théologiens qui étudient la Bible dans le monde, dans des grandes universités, puis ils ne sont pas croyants, ils ne croient pas en Dieu pour autant. La vraie foi, ça va plus loin que la tête, ça implique le cœur, les affections, les émotions. Il y a dans le cœur un amour profond, une passion brûlante pour Dieu. On n'est pas des drones qui ne font que fonctionner selon les principes chrétiens. Je veux dire, on a des émotions, comme je l'ai dit tantôt. Puis lorsqu'on est de nouveau dans le royaume de Dieu, bien, il y a un feu ardent qui est allumé, qui nous pousse à aimer Dieu. Dieu met son amour dans notre cœur pour qu'on l'aime en retour. Puis évidemment, chaque personne, on a notre tempérament, on a nos caractères, des personnes qui sont plus extraverties, d'autres introverties. Donc c'est sûr que ça va ressortir d'une façon différente d'une personne à une autre, mais il n'en reste pas que chaque croyant va aimer Dieu profondément. Ça va s'exprimer par une loyauté, une appartenance, une affection tellement grande qu'on n'aimera jamais personne plus d'autre que Dieu. On n'aimera jamais quelque chose de plus que Dieu, peu importe quoi dans ce monde-ci. C'est pourquoi Jésus dit que si nous ne détestons pas tout en comparaison de notre amour pour lui, nous ne sommes pas dignes d'être ses disciples. C'est fort, ça. C'est quand on compare l'amour qu'on devrait avoir envers Dieu puis envers tout le reste, si la différence entre les deux n'est pas aussi grande que de dire qu'on déteste ça tellement qu'on aime ça, qu'on aime Dieu, bien, on n'est pas digne d'être ses disciples. C'est fort, ça. C'est ça, un vrai croyant. C'est ça, le signe d'un vrai croyant, c'est l'amour envers son Sauveur. C'est une relation profonde au niveau du cœur et de l'âme. Si vous êtes ici ce matin, si vous venez vous réunir au nom du Seigneur, c'est pas parce qu'on vous a tordu un bras. Il n'y a pas personne qui a été vous chercher en limousine ce matin pour vous donner un 5 service pour vous attirer à l'Église. Mais non, vous êtes là parce que vous aimez Dieu et parce que vous voulez entendre parler de sa parole, surtout dans les circonstances actuelles où c'est compliqué de faire fonctionner une Église avec les restrictions sanitaires. On ne fait pas ça par obligation, on fait ça par amour, parce qu'on veut se rassembler au nom de Dieu, parce qu'on l'aime. Puis en fait, c'est ce que ça devrait être. Ça devrait être un désir dans notre âme de connaître notre Sauveur toujours de plus en plus. C'est ça le signe d'une vraie naissance, de ce qu'on appelle dans ce verset ici « ceux qui aiment Dieu ». C'est ça, ceux qui aiment Dieu, c'est les sauvés. Puis cette expression-là, utilisée par Paul ici pour désigner les croyants, ceux qui aiment Dieu, c'est assez rare dans les Écritures, mais on le retrouve ailleurs. Encore une chose qu'on regarde, quand il y a une expression qu'on n'est pas certain dans un verset, qu'on dit « ouais, j'ai pas vu ça souvent ailleurs », c'est bien de faire des recherches pour savoir est-ce que cette expression-là est utilisée aussi ailleurs pour, avec la même signification. Donc, rapidement, si on regarde dans 1 Corinthiens 2 au verset 6, on y lit que « cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits », un autre synonyme des croyants, « sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. » Paul encore dans 1 Corinthiens 8, 3. « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Puis, dans la parole, connaître quelqu'un, ça ne signifie pas seulement savoir qu'une personne existe. Quand ici, on lit dans 1 Corinthiens 8, 3 que celui-là est connu de Dieu, c'est pas juste de dire que, bon, Dieu sait qu'il existe. Mais non, c'est plus que ça. Dieu, il sait qu'on existe. Il y a une notion plus forte que ça. Dans la parole, connaître quelqu'un, c'est synonyme d'aimer. Puis dans ce verset, on voit un exemple où les deux actions sont complètement interchangeables. Le verset dit que celui qui aime Dieu est connu de lui. On pourrait très bien dire aussi que celui qui aime Dieu connaît Dieu. Donc, connaître Dieu signifie l'aimer, et Dieu qui nous connaît signifie qu'il nous aime aussi. Dans Éphésiens 6, 24, on y lit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Donc, cela est vraiment une caractéristique qui définit un vrai croyant de Dieu, c'est d'aimer Dieu. Puis Dieu n'est pas ennuyant. La Bible et Jésus, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, ce n'est pas quelque chose de plate. Il y a un excitement dans notre âme pour Dieu et pour Christ. Puis en reconnaissant que connaître et aimer sont synonymes, on va lire une autre parole dans Jean 10, 14, au verset, Jean 10, versets 14 et 15, où on lit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. » Donc, si on comprend que dans la parole « connaître quelqu'un, c'est l'aimer », on en comprend aussi que dans Jean 10, le bon berger, quoi, il aime ses brebis. Puis, on l'aime en retour. Le verbe « connaître » est indissociable de l'amour. Jésus aime ses brebis et ses brebis l'aiment, comme le Fils aime le Père et le Père aime le Fils. Mais là, pourquoi qu'on parle de l'amour alors que le point qu'on regarde en ce moment, c'est l'engagement? C'est l'engagement qui est écrit en haut. Pourquoi on parle d'amour? Mais parce que l'amour, ça ne vient pas sans engagement. Une caractéristique fondamentale d'un vrai croyant, comme on l'a vu, comme on vient de le voir, c'est qu'il aime Dieu. Mais cela amène obligatoirement au fait qu'un vrai croyant s'engage. Nous nous sommes engagés envers ceux que nous aimons. aimer, mais de ne pas s'engager, ça ne veut pas dire grand-chose. Aimer quelqu'un, mais pas le démontrer, jamais faire d'action, c'est pas un grand amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on s'engage implicitement à voir à leur bien-être, à les supporter, à être là pour eux. Puis si ce n'est pas le cas, on ne peut pas dire réellement qu'on aime quelqu'un. Lorsqu'on se marie, par exemple, on déclare publiquement qu'on s'engage de manière audible en promettant à l'autre, oui, de l'aimer, mais de s'engager pour toute sa vie aussi. Puis d'agir en conséquence. Ce n'est pas juste un sentiment, parce que, encore là, se fier sur nos sentiments, c'est pas très solide. L'amour, c'est quelque chose, c'est une décision, c'est un engagement que même quand les sentiments ne sont pas toujours là, on aime quand même. Puis c'est important de comprendre cela pour le prochain bout de verset, puisqu'on comprend qu'il s'adresse à chacun d'entre nous ici, qui sommes sauvés ce matin. Notre nom est écrit dans ce passage. C'est pour vous, c'est pour moi qui aimons Dieu, que Dieu fait tout concourir à notre bien. Puis une note avant de continuer, il ne faut pas penser qu'il faut atteindre un certain niveau d'amour avant que ce texte s'applique à nous. Quand ici, dans notre verset, on dit que ça s'adresse à ceux qui aiment Dieu, il n'y a pas une espèce de limite là, où « Ah, j'aime pas assez Dieu, fait que le texte ne s'applique pas à moi ». Non, non, c'est simplement une expression pour dire qu'on parle des croyants. Chaque croyant devrait aimer Dieu. On n'est pas toujours rendu à la même place dans notre vie chrétienne. Dieu n'a pas toujours encore transformé chaque personne au même niveau encore. Mais c'est certain qu'un chrétien va aimer Dieu. C'est simplement ça que ça veut dire. On ne parle pas de performance ici. La parole ne parle jamais de performance. Parce que c'est Dieu qui fait tout. Nous, de nous-mêmes, on n'est pas capable de rien faire. Donc la performance, oubliez ça. C'est Dieu qui fournit tout. Ici, on parle simplement d'aimer Dieu comme on peut, de notre possible. Donc le quatrième point qu'on va voir ce matin, c'est la plénitude. Pourquoi la plénitude? Bien, finalement, on va regarder que les choses concourent à Dieu, concourent à notre bien, par Dieu. Mais c'est quoi ces choses-là? C'est quoi toute chose? Ça veut dire quoi? Donc, les prochains mots dans le verset qu'on va étudier sont « toute chose ». Puis ceci, d'un aspect grammatical et syntaxique, c'est le sujet de la phrase. En français, quand on va à l'école, on étudie qu'il y a un sujet, il y a un verbe, un complément dans une phrase. Bien, le « toute chose » ici, c'est le sujet de la phrase, d'une manière grammaticale. Puis « toute chose », c'est une expression qui inclut absolument tout ce qui peut exister. Je veux dire, Paul n'aurait pas pu être plus inclusif que ça. C'est « toute chose ». Il n'y a pas « toute chose » sauf « quelque chose ». « Toute chose » au complet concourt à notre bien. Il n'y a rien qui y échappe. Donc, que ce soit les bonnes et les mauvaises choses. Que ce soit la prospérité ou la pauvreté, que ce soit le succès ou l'échec. Ou même, si on regarde le livre de Job, que ce soit Dieu ou le diable. Hein, des fois, Dieu a même utilisé Satan dans la vie de Job. En tout cas, il a permis que Satan impacte la vie de Job. On se rappelle ici que le contexte qu'on a regardé au début, c'est quoi? C'est la souffrance. Puis même la souffrance est comprise dans cette toute chose-là. Et c'est Dieu qui fait que toute chose travaille à notre bien. On sait cela. Il y a certaines traductions où ce n'est pas clairement écrit que c'est Dieu qui cause tout cela. Comme dans notre traduction à nous, c'est clair que c'est Dieu qui fait ça. On lit seulement que toute chose concourt au bien. Mais on s'entend qu'il n'y a rien qui se passe tout seul. Comme ceux qui pensent au Big Bang, que tout est arrivé tout seul, bien, la parole n'est pas comme ça. Il n'y a rien qui arrive tout seul dans la vie. Donc, s'il y a des choses qui concourent à quelque chose, il y a un architecte en arrière. Il y a quelqu'un qui joue avec ça en arrière. Ça prend un créateur, ça prend quelqu'un qui contrôle. Eh bien, même sans explicitement voir Dieu comme cause ici, il est très facile de le voir dans le contexte immédiat. Si, par exemple, on prendrait une version qui n'a pas le mot Dieu dedans, bien, on regarde les versets autour, puis c'est pas long qu'on voit que Dieu est impliqué dans l'histoire. Premièrement, simplement par le nombre d'allusions à Dieu, que ce soit directement par son nom ou son pronom. Je vais y aller rapidement. Au verset 27, Dieu est mentionné deux fois. Quatre fois au verset 29, six fois au verset 30, une fois au verset 31, quatre fois au verset 32, deux fois au verset 33, une fois au verset 34. C'est donc 20 allusions à Dieu dans les sept versets entourant le verset 28. C'est toujours Dieu, 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 Dieu. Dieu fait partie non seulement de l'équation, il est la source de l'équation. On n'essaie pas ici d'inclure Dieu dans un verset qui fait partie d'un texte où on ne parle pas de lui, au contraire. Les versets 1 à 27, Paul concentre son attention sur le travail du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et au verset 28, le focus y change. Donc, verset 1 à 27, on parle du Saint-Esprit. Verset 28, ça change un petit peu. Il n'est plus mention du Saint-Esprit, Mais ce qui est dominant, c'est Dieu le Père. On parle toujours de Dieu, par contre. C'est implicite dans le verset. Implicite, ça veut dire que ce n'est pas écrit textuellement, mais que c'est simplement logique et flagrant que ça ne peut pas en être autrement. Dieu le Père, c'est le centre du verset 28. Deuxième chose, comme je l'ai dit, les choses ne peuvent pas arriver d'elles-mêmes, donc ça prend quelqu'un en arrière qui arrange tout ça. Puis une expression qu'on peut dire, parfois, je ne sais pas s'il y en a qui jouent aux cartes des fois, mais tu sais, des fois, on a une mauvaise main. Des fois, on pige des cartes et on a une main, ben, je ne peux rien faire avec ça. Je suis sûr que je ne peux pas gagner. Mais Dieu, là, il peut prendre la pire des mains qu'on a dans notre vie. Là. On peut avoir les pires des situations, puis Dieu va gagner. Il va gagner quand même. Dieu va prendre ces cartes-là qu'on a, puis il va nous faire gagner. Parce qu'il sait de quoi qu'on a besoin, puis il peut se servir de n'importe quoi, c'est Dieu. Il est capable de contrôler toutes choses pour notre bien. Puis troisièmement, on lit dans Romains 11, 36, un des plus grands versets de la Bible, où dans le contexte, on voit qu'on parle de Dieu le Père, que c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. Il est difficile d'être plus complet et plus inclusif que cela. Il est donc clair que dans Romains 8, c'est Dieu qui fait que toutes choses concourent à notre bien. Puis voici quatre choses qu'on peut en ressortir à propos de ce Dieu-là. Pourquoi que Dieu fait que toutes choses concourent à notre bien? Non seulement pourquoi, mais comment il le fait. Donc, premièrement, pour être capable de tout faire concourir à notre bien, premièrement, il est amour. Tout ce qui nous arrive est contrôlé par celui qui nous aime d'un amour infini. On s'entend que si Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique mourir sur une croix, on s'entend qu'il nous aime. Il l'a déjà démontré, la preuve, elle est faite. Il nous aime parfaitement. Il nous aime plus qu'on aime notre propre famille. Il nous aime plus qu'on aime notre propre époux ou épouse. Il nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes, à ce point-là. Donc, si c'est cette personne-là qui a les mains sous le volant et qui contrôle toutes choses, ben, il va bien les conduire dans notre vie parce qu'il nous aime. Il est sagesse. Si Dieu n'était qu'amour, donc si Dieu nous aimait infiniment, mais qu'il ne savait pas comment nous démontrer, on ne serait pas plus avancé. Dieu aurait pu avoir la volonté de nous faire du bien, mais sans savoir comment s'y prendre. Nous pouvons aimer énormément des gens autour de nous, puis ça peut arriver qu'il y ait des gens autour de nous, comme j'ai dit tantôt, qui ont des difficultés, qu'on voudrait aider, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas comment les aider. Mais Dieu, lui, il sait. Il sait comment non seulement nous faire du bien, mais il sait nous donner ce qui nous fait le plus de bien. Parce que c'est Dieu qui nous a construit, c'est Dieu qui nous a fait. Il sait de quoi on a besoin. Il est sagesse. Trois, il sait tout. Il n'y a jamais rien qui va surprendre Dieu. Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Il ne sera jamais surpris. Il sait tout ce qu'il y a à savoir à propos de notre situation, toute situation qui se produit dans notre vie. Dieu n'est jamais surpris par un événement qui arrive dans notre vie. Il le sait déjà avant que ça arrive. Donc, parce qu'il sait tout, il sait comment tout faire concourir à notre bien. Quatrièmement, il est tout puissant. Oui, il pourrait bien avoir l'amour, la volonté, la sagesse de le faire, de tout savoir, mais s'il n'était pas capable de le faire, s'il n'avait pas la puissance de le faire, on ne serait pas plus avancé. Donc, Dieu le veut, mais il le peut aussi. Il a la puissance de le faire et rien ne peut lui résister. Rien ne peut venir bloquer le fait que Dieu veut nous faire du bien. Il n'y a rien dans le monde, il n'y a aucun événement qui serait capable de faire que les circonstances sont tellement compliquées, je ne suis pas capable. Cette fois-là, ça... Je ne suis pas capable de concourir à son bien, ça n'arrivera jamais. Avec ces attributs-là, on peut donner à Dieu, comme j'ai dit tantôt, la pire des mains de cartes, puis il va gagner. La pire situation, et il va être victorieux. Donc, on va s'arrêter ici pour ce matin, puis on continuera, Dieu voulant, la prochaine fois avec les autres points. Mais qu'est-ce qu'on peut en retenir, je pense, aujourd'hui? C'est les quatre points qu'on a vus. Donc, premièrement, le contexte qu'on a regardé. Ensuite, d'avoir confiance dans ce que le verset nous dit, même si parfois on ne le ressent pas. L'engagement, qui est la preuve d'un vrai chrétien, à qui s'adresse cette promesse-là. Puis la plénitude, dans le fond, tout vont concourir à notre bien. Puis ces quatre attributs-là de Dieu nous rappellent à quel point on a un Dieu merveilleux, puis qu'on peut avoir confiance en lui, parce qu'il a tout en sa nature pour être capable d'accomplir cette promesse qu'on voit dans Romains 8, 28. On va prier. Seigneur notre Dieu, encore ce matin, on veut te remercier de ce verset que tu nous as laissé. Merci parce que ce verset-là nous aide à passer à travers innombrables épreuves dans notre vie, Seigneur. Puis, on peut chacun en témoigner ici ce matin que la vie sur terre ici, c'est pas facile. Surtout la vie chrétienne, de vivre dans un tel monde où on doit te rester fidèle, Seigneur. Mais merci parce que ce verset-là nous rappelle que peu importe ce qui se passe, peu importe les événements, les personnes, tout ce qui nous entoure, Seigneur, toi, tu contrôles tout ça. Puis tu contrôles tout cela pour notre bien. Puis Seigneur, c'est difficile à comprendre parce que bien souvent, on ne le ressent pas comme ça, mais ta parole nous dit que c'est un fait. Donc, on veut te prier ce matin, Seigneur, de remettre toujours à notre mémoire ces attributs qu'on a vus de toi qui font que tu es la meilleure personne pour, Seigneur, pour voir à notre bien. Puis, on veut que tu puisses nous garder en mémoire ce verset-là, Romains 8, 28, qu'il puisse nous accompagner tout au long de notre vie, puis qu'on puisse toujours se rappeler que, Seigneur, ce qui se passe, il n'y a rien qui est hors de ton contrôle, puis malgré les circonstances, c'est pour notre bien. Puis, merci pour ce Dieu que tu es, ce Dieu qui veille sur nous. Puis, encore ce matin, on veut te remercier pour ton salut que tu nous as donné, qui fait justement qu'on peut être éligible à avoir cette promesse, Seigneur. Puis, c'est en ton nom qu'on t'en prie. Amen.